Bonjour, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Merci d'être venu pour ce culte. Je vous souhaite à chacune, à chacun, la plus cordiale des bienvenues ici à l'Église évangélique de Mérin. Une bienvenue à vous qui êtes des habitués de cette communauté. Une bienvenue également à celles et ceux qui nous visitent de communautés d'églises proches, sœurs, et qui nous font le plaisir d'être là ce matin. Un petit coucou également à ceux qui nous suivent depuis un autre endroit, derrière un écran, à la maison ou ailleurs. Donc, à vous aussi, soyez les bienvenus. Nous avons eu de la chance cette semaine, puisque c'est la semaine de l'Ascension, donc on avait un jour de congé supplémentaire. Mais cette semaine nous a également donné son lot de choses un peu plus tristes. Et je profite d'être là pour vous annoncer ou vous rappeler que cette semaine, ce mardi 24 mai, Blaise Fabargé nous a quittés. Et voilà, un personnage que nous avons tous bien connu. À mon sens, c'est le seul qui avait le droit de garer une Porsche décapotable dans la salle. Un culte d'adieu et de reconnaissance est prévu ici à l'EM jeudi prochain, donc jeudi 2 juin à 10h. Jeudi 2 juin à 10h. Naturellement, nos condoléances et notre soutien vont à la famille et aux proches de Blaise, que ce soit, et vous serez d'accord, au nom de toute la communauté, et également, puisque je suis là, en mon nom à moi, avec une pensée particulière pour Annick, la fille de Blaise Fabargé, avec qui nous avons eu l'occasion en famille de traverser quelques péripéties un peu compliquées. Voilà. Je vais prier pour introduire cette célébration. Merci Seigneur, car nous avons ce matin la possibilité de nous rassembler pour te rendre un culte. Nous espérons que ce culte soit à ton honneur. Et je te demande, Seigneur, d'être présent auprès de ceux qui sont dans la peine ou dans un moment difficile ce matin. Et en particulier, je demande que tu puisses apporter ta consolation à la famille Fabargé, à toutes les familles, parentes et alliées de Blaise qui nous a quittés. Amen. Et la louange prend le relais.
Restez la lumière. Bonjour les enfants. Je vous adresse un message bienvenue à vous aussi ce matin, que vous puissiez passer un beau moment de qualité, riche en enseignements avec vos moniteurs auprès de qui vous allez partir. Voilà, donc je vous laisse aller avec vos moniteurs d'école du dimanche et puis on se voit tout à l'heure. Seigneur, nous louons ensemble ton saint nom. Merci de nous exhorter ainsi à être plus que jamais les témoins de ta lumière pour nos frères et sœurs dans le monde. Lumière de l'amour et de la paix de ton règne éternel. Chantons à présent notre reconnaissance au roi divin, à l'agneau sur son trône. Nous t'honorons, Seigneur. Tu étais sacrifié et tu as vaincu la mort. Toi qui es assis à la droite du Père, entends la louange qui monte de nos cœurs libérés du péché par ton amour infini. À toi soit la gloire éternellement. Nous prenons à l'agneau de Dieu. Tous les siècles. l'Esprit Saint et l'épouse fidèle.
Chacun l'aura compris, jeudi passé, c'était l'Ascension. Comme je l'ai dit, on avait congé. Et l'Ascension, en deux mots, sans vouloir empiéter sur ce qui sera dit plus tard, c'est évidemment le départ de Jésus, accompagné de la promesse de son retour. Et donc, depuis ce jour-là, nous sommes dans l'attente, dans une attente. Au niveau quand on regarde un petit peu les églises réformées, leurs credos, les chants, il y a un fort mouvement sur ce retour, une forte attente. On soupire après ce retour, on l'attend impatiemment. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, essentiellement, je dirais que oui, mais il y a un mais, et tout est dans le mais. Alors, comme j'ai la possibilité de faire la présidence aujourd'hui, c'est moi qui parle, donc je vais vous parler de mon ressenti. Vous pouvez vous inscrire au planning des présidences, comme ça vous aurez le même privilège. Pour moi, c'est 70-30, 70%, 30%. 70%, c'est « je l'attends, mais ». Franchement, s'il revient la semaine prochaine, ça ne m'arrange pas. C'est mon anniversaire, donc si on avait pu encore le fêter une fois en famille, ça aurait été pas mal. Et puis, s'il revient, j'aimerais bien qu'il revienne après le mois d'octobre. Non, parce qu'on a un anniversaire de mariage qu'on voulait fêter à ce moment-là, et c'est important, c'est un chiffre rond qui finit par 0 et qui commence par 3. Donc, voilà. On a tous des mais. Puis après tout, finalement, on n'est pas si mal ici-bas. On fait des projets, à long ou à moyen terme, même à court terme, avec les vacances d'été qui s'approchent, des vacances qu'on a programmées par ailleurs. Et donc, on a cette attente tempérée. Et 70, il reste donc le 30%. Et le 30% chez moi, c'est un 30% qui ne se manifeste pas de manière permanente, qui se manifeste selon les situations auxquelles on est confronté. Et pour ma part, ce sont les situations dans lesquelles il y a tellement peu d'issues visibles qu'on ne peut que souhaiter le retour du Seigneur pour y mettre un terme. Alors, dans ce 30%, on y met à peu près ce qu'on veut, que ce soit une guerre, un réchauffement climatique, toutes ces situations qui paraissent inextricables. Alors, ça tombe mal parce que la semaine passée, il y a eu un exemple qui m'a plongé dans ce 30% et c'est ce qui s'est passé dans une école primaire au Texas. Tout le monde l'a entendu. Et ça, c'est le genre de situation qui me fait dire vivement le retour, parce qu'en effet, j'ai vraiment beaucoup de peine à comprendre comment, sans faire de polémique, d'un côté, on a une évolution de la jurisprudence qui est voulue et qui tend à protéger de manière plus forte, et ce n'est pas un reproche, la vie de moins 9 mois à zéro. Et en même temps, la même juridiction garantit à tout un chacun le droit de mettre un terme à cette même vie en permettant d'aller acheter librement des armes. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le jour après son 18e anniversaire, cette personne s'est dit « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» Je vais aller m'acheter une bière. Non, parce qu'il faut avoir 21 ans pour en acheter une. Mais 18 pour acheter un fusil. Et se rendre dans une école et supprimer la vie de 19 personnes, 19 enfants. J'ai compté ce matin, ils étaient 10. Donc c'est la même chose fois 2. Supprimer ces vies que d'un autre côté, on aimerait protéger avant qu'elles ne viennent au monde. Et quand je vois un tel paradoxe, honnêtement, moi je me dis qu'il n'y a que le retour du Seigneur pour mettre un bon pied dans la fourmilière. Alors voilà, on est dans cette situation, en tout cas moi, où il faut naviguer entre le 70 et le 30. Je n'ai pas la réponse de comment faire pour naviguer dans ce 70-30, mais j'ai confiance que tout à l'heure la prédication certainement nous donnera quelques pistes ou un éclairage qui seront bien utiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et la louange reprend le relais. Merci.
Vous pouvez vous lever, on va chanter ensemble « Éveille-toi mon âme ». Il s'est offert.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. Dimanche passé, nous étions à la cabane du Solia, dans la vallée de Joux, pour une magnifique journée. Ça ne peut pas être tous les dimanches, mais on se réjouit de la prochaine, qui sera le Jeune Genevois, le deuxième jeudi du mois de septembre, c'est juste ? Le 7 septembre, super. J'aimerais remercier l'équipe du jour qui rend le déroulement de ce culte possible. Daniel et André, notre équipe musicale avec Élise, Mélodie, Sylvain. Et un particulier merci à Élise. La semaine a été éprouvante avec la perte de Blaisou. Merci de t'être impliqué pour rendre les choses possibles ce matin. Merci à Sylvain et Thierry à la technique. On a aussi une super équipe en bas avec les enfants. Voilà, c'est aussi comme ça que l'Église fonctionne. Merci à vous qui vous impliquez. Ben voilà, c'est les jolis ponts du mois de mai. Hein, les jolis ponts du mois de mai. Pour certains, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis ça recommence la semaine prochaine, avec le lundi au moins. Les jolis ponts du mois de mai. Le cauchemar des entreprises et des administrations, et le bonheur des salariés. Et pour cette semaine, comme dit, c'est donc le pont de l'ascension. Le pont de l'ascension. En l'honneur de quoi ? En l'honneur de quoi posons-nous un pont de l'ascension ? En l'honneur de quoi ? En l'honneur de quoi ? De notre Seigneur, mais encore. Ben oui, du jour où le Seigneur est monté au ciel. J'ai découvert cette semaine dans le calendrier qui est dans mes toilettes, j'ai eu le malheur d'acheter un calendrier en langue allemande, mais ça je l'ai découvert le 2 ou le 3 janvier, mais je plaisante, oh. Ça me fait faire des révisions, ou même j'apprends des trucs. Par exemple, et je n'ai pas complètement perdu ma semaine, j'ai découvert qu'en allemand, l'ascension se dit de façon beaucoup plus claire qu'en français, Christ Himmelfahrt. Himmel, hein, faut prononcer le H. Ça va, Rebecca? Christ Himmelfahrt?
Oui, ça c'est le
truc catholique. Ok. En plus, j'ai acheté un calendrier catholique. Oh. Comment tu dis? Auffahrt. Le départ. Ok, ok. Merci. En honneur de la montée de Christ au ciel. Et pour certaines traditions chrétiennes, ce jour-là et le dimanche qui suit, c'est une vraie grande fête. Dans certaines traditions chrétiennes, le jeudi de l'Ascension et ou le dimanche qui suit, les églises sont archi-pleines. Et pour nous, chrétiens évangéliques, ben, je remarque que c'est souvent une fête au bas mot méconnu, si ce n'est ignoré. D'ailleurs, dans notre tradition, à ma connaissance, ici nous ne faisons rien le jeudi de l'Ascension. L'Ascension, c'est une fête chrétienne qui est célébrée 40 jours après le jour de Pâques. Ainsi, l'Ascension, elle tombe toujours un jeudi, puisque le dimanche de Pâques est toujours un dimanche. Le dimanche de Pâques, les disciples rapportent avoir vu Jésus ressuscité. Les femmes, d'abord, l'ont vu. Elles ont reçu la mission d'aller le prêcher à leurs frères. Ils ont mis du temps à être convaincus, mais ils l'ont été, parce qu'ils l'ont vu, Christ ressuscité. Et plusieurs rencontres avec lui ont lieu dans les jours suivants. Puis le jour de l'Ascension, c'est la dernière rencontre. Jésus leur donne pour mission de proclamer l'Évangile dans le monde entier, et après ces paroles, il est élevé au ciel, et l'Ascension désigne ainsi le moment où Jésus monte aux cieux. L'Ascension, c'est un événement biblique et c'est un événement historique. Quand on lit les récits de l'Ancien Testament, on découvre par exemple les stèles qu'érigeaient les Israélites pour se souvenir des actes puissants de Dieu. Quand Dieu faisait un truc vraiment puissant, le peuple d'Israël érigeait une stèle pour s'en souvenir. La première église baptiste implantée en France, l'église du Tabernacle à Paris, a déposé en ses fondations une stèle qui contient une Bible pour marquer le coup de la fidélité de Dieu sur laquelle on peut fidèlement bâtir. Je connais une église qui, par la grâce de Dieu, a beaucoup grandi en très peu de temps. Et pour marquer le coup, elle a planté un arbre de la reconnaissance et a posé sur cet arbre une plaque qu'ils ont fait graver. On peut dire que le calendrier des fêtes chrétiennes dresse des stèles dans le temps. Des occasions de se souvenir, des occasions de développer de la reconnaissance. Je fais partie de ceux qui pensent que les grandes fêtes chrétiennes se préparent. Pour Noël, nous avons 4 dimanches d'anticipation, les 4 dimanches de l'Avent. Pour Pâques, il peut y avoir ces 40 jours de préparation spirituelle. Pour Pâques, il y a le dimanche des rameaux. Il y a le vendredi saint. Et l'explosion de joie, de vie du dimanche de Pâques a d'autant plus de force quand on prend le temps d'y penser un peu avant. Et la prochaine fête, la fête de la Pentecôte, elle devrait aussi être une explosion de joie et de vie à préparer avant. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à nous réjouir de ce que Jésus est monté au ciel et qu'il règne. Et j'aimerais nous mettre l'eau à la bouche pour la fête de la Pentecôte qui vient. On va donc lire le tout début du livre des Actes des Apôtres. C'est Daniel qui va nous conduire dans cette lecture en acte 1, les versets 1 à 11.
Acte 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous, vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis, une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. »
Merci, Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce début du livre des Actes où Luc continue de raconter ce qu'il a commencé de raconter dans son évangile ? Eh bien, c'est la dernière des apparitions physiques de Jésus après sa résurrection. C'est la fin de l'enseignement particulier que Jésus a donné pendant 40 jours à ses disciples. Et cette fois-là, ça ne se passe pas comme lorsque Jésus était à table avec deux disciples dans le village d'Emmaüs, et qu'il disparaît comme ça, sans crier gare, au début du repas. Ça ne se passe pas comme ça ici. Ici, cette fois, vous avez ce qu'on peut appeler un départ organisé. Un départ solennel et un départ très visible. Ce n'est pas cette fois-là que Jésus s'éclipse discrètement. Il monte au ciel. Et la signification de cet événement, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, aux cieux, après la résurrection. Et le ciel n'est ainsi pas entendu comme un lieu géographique, mais comme une rencontre avec Dieu, l'endroit où est Dieu. Ce n'est pas que Jésus s'éclipse discrètement, mais il est monté au ciel. Ce n'est pas seulement qu'il change de dimension, comme dans un film de science-fiction. Je cite 1 Pierre 3, verset 22. Jésus, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, et les anges, les autorités et les puissances célestes lui sont soumis. Jésus, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu. Le langage qui est utilisé ici, le langage spatial, monter, s'asseoir à la droite de Dieu le Père, c'est un langage qui parle de sa gloire et de son autorité. L'ascension de Jésus nous dit qu'il règne. En 1 Corinthiens 15, au verset 25, Paul dit « Il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne. Et je trouve qu'à quelque part, pour reprendre l'intro d'André, c'est une pensée assez exaltante, assez enthousiasmante. L'idée que Jésus règne. Et pourtant, que de misère dans ce monde. Le 70-30 d'André, souvent je le partage. Pourtant, je vais attendre encore un petit peu pour fêter mon anniversaire, puis on vient de fêter notre anniversaire de mariage. Mais le 70-30, je le partage souvent. Puis parfois, c'est du 50-50. Que de misère dans ce monde. Des actes de cruauté épouvantables. Des actes de violence, de fanatisme. Qui sature l'actualité. Des guerres épouvantables qui jettent des centaines de milliers de personnes sur les routes. En Ukraine aujourd'hui, c'est sous nos yeux, mais le continent africain, c'est tout le temps. Alors c'est plus loin, mais c'est tout le temps. Des massacres. Racisme qui gangrène la société. La pauvreté de certains pays, tellement criante. Et la menace nucléaire qui refait surface. Et la crise climatique qui nourrit, me semble-t-il, une légitime éco-anxiété. Et des chrétiens, des chrétiennes, qui devraient logiquement être protégés par leur Seigneur Tout-Puissant et qui se trouvent pourtant en butte à l'injustice, à des persécutions presque partout dans le monde, de la part des fondamentalistes musulmans et hindous, de la part de régimes totalitaires, de la part des barons de la criminalité en Amérique du Sud. Il n'y a jamais eu autant de martyrs que maintenant, jamais. L'injustice sociale, la nature qui se détraque. Et que dire des malheurs, petits ou grands, qui nous frappent les uns les autres dans notre vie personnelle. Il règne. Vraiment ? Comment donc ? Ses ennemis, nous dit Paul, ne sont pas encore sous ses pieds. Mardi soir, à l'atelier biblique, on réfléchira à cette notion d'ennemi. Toujours est-il que par endroits, les ennemis, l'ennemi, semble gagner du terrain. Je trouve exaltant l'idée que Jésus-Christ règne. J'ai envie de le chanter, j'ai envie de lever les mains. Il règne. Et en même temps, que de misère dans le monde. Et je veux relever deux choses ici. Le réalisme et la foi. La Bible sait bien que la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, Romains 8, verset 35, font partie du paysage des chrétiens. La Bible sait ça, elle le dit, elle nous prévient, elle nous accompagne. Nous savons ces choses. Nous apprenons à les regarder en face. Le péché n'a pas disparu dans notre monde et les effets du péché, y compris dans nos rapports humains, y compris dans la nature, les effets du péché sont toujours là. Nous souffrons et nous faisons souffrir les autres à cause du péché. Le réalisme. Et en même temps, nous ne sommes pas dans le déni. Quand nous affirmons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Et nous affirmons que rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 8, 39. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8, verset 37. Notre réalisme vient donc être tempéré par la foi. Et notre foi est baignée de réalisme. Et c'est là que le règne de Christ doit nous encourager. Jésus ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il intercède pour nous, Romains 8, verset 34. Là, au cœur de ce chapitre qui nous parle de l'ascension de Jésus-Christ, il nous est dit que depuis son ascension, il intercède pour nous. Un des trucs qui me fait le plus de bien dans ma vie courante, la petite vie de la semaine, c'est quand un de mes frères ou une de mes sœurs me dit « Tu sais, je prie pour toi. » Ça me fait un bien, c'est juste dingue. Quand on me le dit ou on me l'écrit, j'espère qu'on le fait hein, les uns pour les autres. « Tu sais, je prie pour toi. » Ça me fait un bien. Et puis dans Romains 8, 34, je découvre que Jésus lui-même prie pour nous. Tu sais, il prie pour toi. Tu sais ça ? Jésus prie pour toi. À quel point tu comptes pour lui ? Il transcende les puissances les plus obscures de l'histoire. Il accompagne au millimètre près notre vie. Il en borne les contours. Son projet pour toi, pour l'Église et pour le monde triomphera à travers toutes les oppositions. Jamais rien ne lui résistera. Il règne. Philippiens 2, 9 à 11. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il règne. Il règne et il reviendra. Et nous attendons son retour, n'est-ce pas ? Et c'est là que nous entendons la promesse prononcée par les deux hommes vêtus de blanc dans Acte 1 à 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Il reviendra de la même manière. Dans beaucoup de traditions chrétiennes, C'est quelque chose qu'on rappelle dimanche après dimanche dans la liturgie. Symbole de Nicée-Constantinople, Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, d'après les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et les deux messagers disent qu'il reviendra de la même manière qu'il est monté. C'est-à-dire que Jésus va revenir personnellement, corporellement, visiblement, glorieusement. On trouve ces aspects quantité d'endroits dans le Nouveau Testament. Jésus reviendra personnellement, corporellement, visiblement, glorieusement. Ce n'est donc pas la même chose que de dire que Jésus revient nous chercher sur notre lit de mort, ou qu'il reviendra en toute discrétion à telle ou telle date, sans cesse réactualisée par les spécialistes en la matière, ou qu'il apparaîtrait comme par une sorte de réincarnation dans la peau de quelqu'un d'autre. Non, jamais la Bible n'annonce ça. La Bible annonce le retour glorieux du roi des rois. Dans le monde ancien, c'est le genre de choses qu'on évoquait par le mot parousie. C'est un miracle si mon correcteur orthographique ne l'a pas souligné en rouge. La parousie. Ce mot, il est utilisé dans la littérature grecque pour décrire le retour d'un général victorieux. Dans la littérature grecque, on utilise ce mot parousie pour décrire comment un général victorieux ou un roi revenait d'une conquête. Le général est suivi par ses troupes, le roi est accompagné par une suite immense, il s'approche d'une ville et les habitants sortent de leur ville pour le rencontrer, pour lui faire une escorte d'honneur. Et avec eux, il entre dans la ville et il commence à régler ses affaires. L'apôtre Paul a eu droit à ce genre d'escorte quand il est arrivé de Rome. Les chrétiens sont allés à sa rencontre. Un copain corse aimait bien le fait qu'ils l'ont trouvé aux trois tavernes. C'est la même coutume, le retour victorieux du roi, qui permet à Paul de dire, en écrivant aux Thessaloniciens, que quand Christ reviendra, nous serons enlevés tous ensemble dans les nuées pour rencontrer le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Quand le Seigneur reviendra, nous ferons partie du cortège du Seigneur qui arrive. Il y aura de glorieux embouteillages en perspective. En attendant, Jésus nous précède au ciel. Il nous représente comme un grand prêtre. Il nous accompagne jusqu'au trône de la grâce. Comme dit, il prie pour nous au trône de la grâce. Nous pouvons prier Dieu en toute confiance à cause de Jésus. Nous ne sommes donc pas dans une sorte d'attente résignée, passive. Nous sommes dans une ferme assurance. Parce que nous sommes en train de marcher par la foi et pas par la vue. Parce que les misères du monde, mes petites misères personnelles, n'absorbent pas tout l'horizon. Il reviendra. L'ascension de Jésus dit qu'il règne et qu'il vient. Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous attendons ton retour. Et il me semble que l'ascension dit une dernière chose ici et je conclue. L'ascension nous dit que le Saint-Esprit va venir. Juste avant de s'en aller, Jésus a donc dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Jésus a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Le Saint-Esprit, dit-il, descendra sur vous, vous recevrez sa puissance Et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Je ne vais pas parler de la Pentecôte, c'est Célina qui aura le bonheur de nous en parler dimanche prochain. Je relève juste qu'à partir de l'ascension, les disciples attendent la Pentecôte. La venue de l'Esprit sera la preuve qu'après avoir accompli la purification des péchés, Jésus siège dans les cieux à la droite de Dieu. L'apôtre Pierre le dit de la manière suivante. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Tout le peuple doit savoir avec une entière certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. La Pentecôte prouvera que Jésus est monté au ciel et que du ciel il règne et qu'il envoie son Esprit. Je conclus. Et pour conclure, je repensais dans la préparation à une des paroles les plus énigmatiques du Nouveau Testament. C'est une parole qui est dite à Marie de Magdala le dimanche de la résurrection. Elle est seule dans le jardin et Jésus vient vers elle. Et dans l'émotion incroyable qui l'étreint, elle se précipite, Marie de Magdala, vers Jésus. Et le Seigneur lui dit alors un mot qui fait transpirer les traducteurs. Jean 20, verset 17. Marie, ne me retiens pas. Ou ne me touche pas. Ou plus littéralement, ne t'accroche pas à moi. C'est un peu bizarre. Comme si on était dans un film où on touche quelqu'un et puis que la main, elle passe au travers du corps, tu sais. Mais c'est pas ça, bien sûr. Parce que le même soir, Jésus va demander à ses disciples de le toucher pour se convaincre qu'il n'est pas un fantôme. Donc le sens premier, c'est sans doute que Marie de Magdala ne doit pas essayer de maintenir le maître dans son rôle ou dans son ministère terrestre. Elle doit le laisser aller. Elle doit le perdre, en quelque sorte. Et l'apôtre Jean, il aime bien rapporter des mots à double sens, comme ici. Et je crois que la clé de l'énigme, elle se trouve juste dans la suite, où Jésus dit, « Marie, ne t'accroche pas à moi, car... je ne suis pas encore monté vers le Père. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'accrocher à moi. Parce que je ne suis pas encore monté vers le Père, lui dit Jésus. Et le « car je ne suis pas monté » suppose que quand Jésus sera monté, alors on le touchera, alors on le retiendra, alors on se l'appropriera. Alors on pourra s'accrocher à lui. Parce qu'il est monté. Parce qu'il règne. Et je crois que c'est pour nous que cela a été écrit, mes amis. Je crois que c'est pour nous que cela a été écrit. Jésus est monté au ciel. Il y est. Il est assis à la droite de Dieu. Il est parfaitement installé dans son règne. Glorieux et proche à la fois. Alors, on s'accroche maintenant à lui. Fort, par la foi. On s'accroche maintenant à lui. Fort, par la foi. vous propose un petit moment de prière, personnelle ou à haute voix, l'occasion de dire au Seigneur Jésus qu'on a tellement besoin de lui, qu'on s'accroche à lui par la foi. Et puis l'équipe musicale s'approchera pour nous introduire dans un chant qui nous permettra ensuite de prendre la scène ensemble. Mais d'abord, quelques instants, prière personnelle, prière collective, à haute voix, dans votre cœur, comme vous le sentez. Et André va passer avec un micro pour que nos amis derrière les écrans puissent nous entendre. Manifestez-vous simplement en levant la main.
Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, dit Jésus à ses disciples, vous feriez des choses extraordinaires. Et Seigneur Jésus, il est vrai aussi ce Père, et là je le rejoins, qui dit au Christ par rapport à son enfant, je crois, viens au secours de ma foi. Et Seigneur, face à tous ces mystères, entre guillemets, c'est vrai que dans nos hésitations, dans nos doutes, dans nos moments difficiles, par la foi, tu peux nous rejoindre. Nous pouvons t'approprier, te prendre avec nous, et tu viens avec nous. Tu remplis nos cœurs. Alors Seigneur Jésus, que cette foi ne soit pas petite ou grande, mais qu'elle soit simplement alimentée par ton esprit en nous, afin que ton règne vienne. Amen.
Merci Saint-Esprit, pour le jour glorieux où dans ma détresse j'ai crié à toi. Et tu m'as rejoint, et tu m'as jamais quitté. Pardon pour toutes les fois où je me suis éloignée. Mais aujourd'hui, je peux te dire, viens Seigneur Jésus, c'est mon espoir suprême. Glorifie ton nom à travers l'Assemblée. Saint-Esprit, manifeste-toi, nous avons faim et soif de ta présence. Dans le nom de Jésus, je prie le Saint-Père. Amen.
À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen.
Façonner la terre, J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer.
Nous entrons dans le moment de la Sainte Cène, du repas du Seigneur, avec la lecture de Luc chapitre 22, les versets 14 à 20.
Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous.
Pour cette Sainte Cène, on va se souvenir qu'elle a été instituée à la toute fin de l'existence terrestre du Christ, la nuit où il fut livré, avec une demande de la part du Seigneur qui est de répéter ce geste. Dans dans son souvenir et avec la promesse que nous la prendrons à nouveau avec lui au ciel. Et donc nous sommes aujourd'hui encore dans cet état intermédiaire où nous répétons cette célébration de la scène en son souvenir, en sa mémoire. Alors, ce matin, on va vous demander de, puisqu'on est après l'ascension, après le mouvement, après l'élévation, de venir et de vous approcher de la table. Pour une fois, on va vous demander de venir, de vous lever, de vous approcher de la table, car tout est prêt, le repas est prêt. Et c'est une manière aussi d'être en phase avec ce qui a été dit ce matin. Seigneur, je te remercie pour cette scène que nous pouvons prendre ensemble, qui nous rappelle, qui est un rappel fort de ton sacrifice. Et ce sacrifice nous a donné la vie, nous a prémunis d'un châtiment qui nous était dû, et ce sang coulé nous lave de nos péchés et fait que nous sommes vus sans faute. Merci pour ce rappel jusqu'à ton retour. Amen. Voilà, je vous invite à venir en commençant par les rangs du fond. On est finalement assez nombreux, donc peut-être on va utiliser une travée pour l'aller, une travée pour le retour, en partant depuis les rangs du fond. Et à la table, tout est prêt. Approchez-vous, prenez, mangez et buvez à la table, et ensuite regagnez votre place tranquillement. Comme d'habitude, les petits gobelets colorés au centre sont sans alcool.
Thank you.
Je vous propose de vous lever pour réciter ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Enfant, j'aimais beaucoup jouer au Lego. C'était vraiment une passion. Je regrette que mon fils ne joue pas autant. Je risque même d'en acheter et les construire moi-même en justifiant que c'est pour lui. À tel point que si vous m'aviez demandé à cet âge-là, aux alentours de 10 ans, si j'avais envie que le Seigneur revienne, alors pour être poli, je vais dire que ça va être du 99,1%, peut-être c'était pour faire plaisir à mes parents. Parce que l'image que j'avais d'être au ciel, on me disait, on va louer le Seigneur. Alors, la mort, ben, quand on est enfant, c'est imaginer un squelette. Alors, imaginer des squelettes en train de louer le Seigneur, ça ne fait pas très envie. Jusqu'au jour où on m'a dit, finalement, il y avait un repas, que ça serait la fête. Et là, ça devient un peu plus intéressant. Puis après, en grandissant, on se rend compte qu'avec surtout la société d'information dans laquelle on se trouve, on voit un petit peu plus ce qui se passe dans le monde. Et on n'est pas simplement enfermé dans notre chambre à jouer au Lego, mais qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde. On découvre le côté sombre de l'humain, même si ça ne nous empêche pas petit de se battre avec son frère ou sa sœur. C'est quand même aujourd'hui des situations qu'on lit et qui nous font souffrir. Et je crois que le monde n'a jamais été avec une soif aussi grande à rechercher un espoir, l'espoir de quelque chose de meilleur. Les hommes cherchent à créer un nouvel ordre mondial en pensant qu'ils vont arriver à faire quelque chose de mieux, sachant que l'homme n'a jamais changé depuis le début des temps. L'évolution, elle est certes dans la connaissance et dans les moyens techniques que nous avons pu développer, mais le cœur de l'homme n'a jamais changé. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir une certaine joie de se dire que ce monde a une soif. Il a soif. Et nous, chrétiens, nous pouvons répondre à cette soif. Et cette soif, on peut y répondre de différentes manières, par des activités de l'Église, notamment comme mardi 31 mai, avec un atelier biblique autour de Daniel 10, avec Philippe, donc c'est ici à 20h à l'IM, 20h15. Mais aussi par des moments de louange, comme vendredi prochain, vendredi 3 juin à 20h à la chapelle, où vous êtes tous invités à ce moment de louange, et qui sera animé par Xavier Perrin. On peut aussi répondre à cette soif dimanche prochain, le dimanche Pentecôte, avec ce culte qui sera suivi par un repas communautaire. Aussi ce moment où on peut répondre à cet amour que nous avons entre nous, cet amour qu'on transmet, c'est à ceci qu'on reconnaît qu'on est disciple de Jésus. Et puis dans le cadre de cet amour qu'on peut avoir entre nous, il y a une petite équipe qui a mis en place une sorte d'accueil entre nous, mais aussi pour les nouveaux qui viennent d'arriver dans l'église. C'est un dimanche, le dimanche 26 juin, avec ce qu'on appelle un dimanche des invitations réciproques. Donc pour ceux qui reçoivent par courrier, vous avez, sauf erreur, déjà reçu cette invitation. Pour les autres, vous allez recevoir cette semaine un email. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste et vous désirez recevoir cet email, n'hésitez pas soit à demander à nos pasteurs ou encore à Sylvain pour être sur la liste des diffusions. Le principe, c'est de s'inscrire si on a envie d'être invité ou si on a envie de recevoir. Et puis après, ce petit groupe organisera les équipes pour qu'on puisse faire connaissance. Le principe étant que des personnes qui ne se connaissent pas puissent se retrouver et apprendre à se connaître. Ensuite, est-ce que Claude est là pour Merin-les-Bains ? Toi, tu peux venir.
Voilà, vous allez voir ces prochaines semaines arriver cette petite affichette dans vos courriers ou courriers électroniques ou courriers papier. Donc c'est Merin-les-Bains, c'est une manifestation organisée par la commune de Merin durant 3 semaines. Donc il y a le repas de midi, il y a le repas du soir, enfin, il y a plein de choses qui sont organisées. Et ça se trouve derrière le centre commercial de Merin-Cité. Et l'église évangélique de Merin, on a pu s'inscrire pour un jour, ça sera le vendredi 15 juillet, où nous sommes invités à tenir la buvette, à faire un repas et aussi à passer un film le soir, un ciné-transat, comme on appelle ça. Donc vous êtes cordialement bienvenus. L'après-midi, on est en train de regarder aussi avec la framboise, voir si on peut organiser une animation pour les enfants l'après-midi. Mais en tout cas, vous êtes cordialement invités pour le repas et après pour le ciné-transat. Et je profite de dire qu'on a besoin encore de quelques bénévoles pour et la cuisine et d'autre part... pour pouvoir faire la buvette. Donc, vous êtes cordialement invités aussi à tenir un petit moment le stand. Merci. Je profite aussi, excuse-moi, c'est pas prévu, mais je profite aussi pour signaler que avec Anne-Claude et moi-même, donc nous sommes à la framboise et nous finissons en principe début de l'année prochaine notre mandat dans cette association. Donc ça fait 20 ans entre elle et moi, plus ou moins 20 ans que nous y fonctionnons. Donc nous cherchons des remplaçants pour continuer ce ministère auprès des enfants qui a lieu dans notre église, donc au sous-sol. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me trouver. Merci.
Merci. Encore 2 points, même 3. Sur la table qui est vers le panneau blanc à l'extérieur, c'est les objets trouvés. J'ai vu qu'il y avait encore 2-3 choses qui traînaient dessus, donc n'hésitez pas à récupérer si vous avez laissé quelque chose. Ensuite, l'église fonctionne grâce à vos dons et vos offrandes. Vous avez le moyen soit par Twint, soit en laissant quelque chose dans la corbeille. Et puis, petite information, si vous faites des virements par bulletin sur le CCP, d'ici septembre, on ne pourra plus faire avec les bulletins roses. Donc, il y a des nouveaux bulletins qui sont là, c'est avec des QR codes. On fera transmettre encore une information par rapport à ça. Ceux qui ont l'habitude peut-être encore d'aller au guichet postal ou de faire des envois par courrier pour les paiements, ça risque de plus fonctionner à partir de fin septembre. Donc, il y a des nouveaux bulletins qui sont là, qui correspondront aux nouvelles normes. Et puis, le dernier point, ben, après le culte, bien sûr, le café qui est servi pour un moment de convivialité. Merci.
Je vous invite à vous lever pour un mot d'envoi, de bénédiction. Que j'emprunte à l'apôtre Paul dans ce magnifique chapitre de 2 Corinthiens 4, et je lis au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Nous nous accrochons fort
par la foi. Bonne semaine à chacun, chacune.